Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous sommes donc le mardi 5 novembre 2019 et ce soir nous avons une émission très riche. Nous allons parler du Chili, nous allons parler des collages contre les féminicides et nous allons recevoir David Dufresne, l'auteur de Dernière Sommation, ce livre qui raconte comment il a raconter les violences policières sur les manifestants les manifestants gilets jaunes.
Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Céline.
On commence par parler du Chili ?
Allons-y.
Alors pour ça, je propose d'entamer tout de suite avec une chanson de Victor Jara qui s'appelle Vientos del Pueblo. Victor Jara, il faut rappeler que c'est un martyr de la dictature. Il a été torturé et tué publiquement pour avoir été un musicien contestataire.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
En fait, je voulais essentiellement parler de ce mouvement social au Chili qui dure depuis 15 jours. Donc, de quoi il s'agit véritablement en fait ? Il s'agit d'un mouvement social à la suite de l'augmentation de 30 pesos du ticket de métro. En fait, le ticket de métro de Santiago est passé de 800 à 830 pesos, ce qui n'a pas l'air d'une augmentation énorme.
Démentielle, ouais.
Mais il faut savoir que c'est un des métros le plus cher d'Amérique latine, le métro de Santiago. Donc ce mouvement a commencé en fait par un mouvement de fraude et de ce qu'on appelle d'évasion massive.
D'accord.
Donc ce mouvement de fraude massive, c'était et si on sautait par-dessus les tourniquets, qu'est-ce que ça donnerait ?
D'accord.
Donc en fait, ça commence par ça, evadir, no pagar, otra forma de luchar, c'est-à-dire la fraude, on ne paye pas, c'est une autre forme de lutte.
D'accord, ok. Ah.
À la suite de cette forme, à la suite de cette fraude massive, on aperçoit, enfin, on se met en place en fait dans les rues de Santiago et dans le métro des incendies,
ah oui,
des blocages de stations de métro et des pillages un peu partout. Suite à quoi, Sébastien Piñera, le président du Chili, décrète le couvre-feu et l'état d'urgence.
D'accord.
Dont on va se rendre compte, enfin très rapidement, qu'ils sont pas respectés en fait.
D'accord. Enfin,
simplement, le couvre-feu, c'est c'est l'interdiction de sortir après une certaine heure, et les habitants de la ville continuent de sortir malgré cette interdiction et bravent de la même manière l'état d'urgence.
Donc une défiance totalement assumée en fait.
Une défiance assumée, et si tu veux, cette présence des militaires dans les rues, elle est à la fois un très mauvais signe à Santiago à un moment où elle a lieu. Bon, la dictature est terminée depuis 90, mais si tu veux...
Ça
ravive des souvenirs. C'est la première fois qu'on voit effectivement réapparaître des militaires. Et pour autant, si tu veux, la population ne prend pas peur. Enfin, elle va se dire, non mais en fait, il est hors de question d'accepter ça, il est hors de question. Comme le dit Sébastien Piñera, on est en guerre. Ça, c'est le président de la République, le président chilien qui dit, on est en guerre. Et les Chiliens se disent, non, en fait, on n'est pas en guerre. Il est hors de question de considérer qu'on est en guerre et d'accepter, effectivement, des mesures telles que le couvre-feu et l'état d'urgence.
Pour l'augmentation du ticket de métro.
Bah, suite aux incendies, suite au saccage des stations de métro et suite, effectivement, aux pillages qui ont eu lieu. Et le 25 octobre, donc il y a très peu de temps, on assiste dans les rues de Santiago du Chili à une manifestation de plus d'un million de personnes dans la ville.
D'accord.
Santiago, il faut savoir que c'est une ville de 6 millions d'habitants.
Ah oui, c'est... Oui.
Donc un habitant sur six est dehors.
D'accord.
Un million de personnes, c'est au minimum. Hein. On pourrait décompter jusqu'à 1,5 million. C'est la plus grande manifestation de l'histoire du Chili.
Pour se donner une image, hein, pour l'agglomération parisienne, on parle de 12 millions d'habitants. Et le jour où il y a eu la fameuse manifestation du 11 janvier en 2015, on a vraiment considéré que c'était un truc énorme. Et il y avait, je crois, 1 million à Paris dans les rues à ce moment-là et personne ne pouvait bouger. Donc là, le rapport est de 1 à 12. On était assez impressionnés. Là, c'est un rapport encore plus grand, 1 à 6. Et là, j'imagine qu'effectivement, c'est une mobilisation de tous les Chiliens et des habitants de Santiago et des environs contre le couvre-feu.
Complètement. Faut savoir aussi que les manifestations, elles n'ont pas lieu seulement à Santiago, elles ont lieu aussi dans deux autres villes qui sont les principales villes du Chili, à savoir Valparaiso et Concepción. C'est intéressant parce que ça veut dire que ce n'est pas seulement un mouvement de la capitale. Et suite à l'augmentation de ce ticket de métro, on pourrait se dire... bon, en fait, les autres villes ne vont pas se sentir concernées. Mmh. Là aussi, le Chili, c'est un pays de 15 millions d'habitants. Donc, au moment où il y a 1 million de personnes dans les rues, dans la capitale, tu vois, oui, un peu le rapport que ça fait. Ouais. Et effectivement, Santiago, Valparaiso et Concepción sont les premières villes aussi à avoir été touchées par le couvre-feu et l'état d'urgence. Hein, le couvre-feu a été décrété dans ces trois villes. Et c'est là où il y a les plus grandes réponses en termes de manifestants et de concerts de casseroles, les fameux casserolasso, en fait, qui sont une manière de protester extrêmement bruyante. Hein. On sort une casserole et une cuillère en bois et on tape dessus, quoi.
Mais du coup, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est une maladresse du président chilien pour faire venir des militaires dans la rue alors que le pays était pas... Il y a une génération encore sous une couverture, en tout cas une domination militaire, ou est-ce que c'est une maladresse de sa part, ou c'est une réaffirmation du pouvoir, ou est-ce qu'ils se sont soutenus par les États-Unis comme à une autre époque? Qu'est-ce qui lui a pris de mesurer aussi mal le fonctionnement du Chili à ce moment-là?
Effectivement, c'est une maladresse, hein. J'ai vraiment l'impression que il réagit très peu, très mal et trop tard. Enfin, la première réaction, c'est d'envoyer effectivement les militaires, de décréter le couvre-feu. Bon, il faut imaginer que ça a une portée symbolique terrible. Mmh. La dernière fois qu'on a vu des militaires dans la rue avec un couvre-feu, c'est pendant la dictature. Il y a encore des gens qui s'en souviennent, évidemment. Mmh. Et des gens qui s'en souviennent sur un plan international. Enfin, je veux dire, la dictature au Chili, tout le monde la connaît. Mmh. Donc... Pour rappel, elle a lieu en 73, hein, c'est effectivement l'incendie du palais de la Moneda. L'attaque par l'armée pinochetiste, en fait, l'armée commandée par le général d'armée Pinochet, qui prend d'assaut le palais présidentiel, et Salvador Allende, le président de la gauche alors au pouvoir, une gauche de concertation, se suicide dans son bureau présidentiel.
D'accord. À savoir que l'arrivée de Pinochet permet de faire venir une nouvelle gestion politique et économique au Chili, et qui pour faire vivre ou pour faire vaincre la doctrine capitaliste extrêmement forte et extrêmement violente et écrasante pour les masses, quoi.
Oui, et Sebastián Piñera, c'est le président actuel, c'est l'héritier de ça. Déjà parce qu'il s'est revendiqué pinochetiste, d'accord, je veux dire très clairement.
Ah oui, carrément, oui.
Et ensuite parce que c'est un milliardaire. Donc en fait, il est très clairement l'héritier à la fois néolibéral et politique de Pinochet.
D'accord.
Donc il va défendre ça. Bon, à la suite effectivement de l'incendie, de la manifestation, etc., et du couvre-feu pas respecté, il va commencer par dire, voilà, quels sont les premiers résultats de cette mobilisation massive. Il revient sur l'augmentation du ticket de métro. Donc non, bah finalement, on va pas augmenter le ticket de métro à 830 pesos. Sauf que ça, c'est trop tard. Ouais. En fait, les Chiliens ont pris conscience qu'ils n'étaient pas là pour cette histoire d'augmentation, mais ils étaient là pour des questions d'inégalité structurelle. Et puis aussi, la répression militaire et policière, elle est allée extrêmement loin. Mmh. On dénombre aujourd'hui au moins 20 morts, des centaines de blessés, des disparus. Je veux dire, il y a encore des gens, effectivement, dans les manifestations qu'on appelle les uns après les autres, parce que, voilà, on sait des disparus comme au temps de la dictature.
D'accord.
Et une suspicion très forte, hein, il y a des organismes d'observateurs des droits de l'homme qui sont en train de documenter ça, des suspicions de torture dans les commissariats et dans certaines stations de métro.
Ça rappelle vraiment des souvenirs terribles pour les Chiliens, ça, j'imagine.
Oui, complètement. Et donc, effectivement, donc cette mobilisation massive, là aussi, à quoi elle aboutit? Bon, bah, aussi également à l'annulation de la COP25, tu sais, cette conférence sur le changement climatique qui devait avoir lieu en décembre à Santiago. En fait, Sébastien Piñera a annoncé que le Chili se désistait complètement, hein, qu'il n'était pas possible, vu le climat social, de faire venir la COP25. Donc c'est l'Espagne qui a récupéré cette conférence. Et ainsi que le sommet du Forum de la coopération économique Asie-Pacifique, qui devait avoir lieu à Santiago mi-novembre.
D'accord.
Alors là aussi, ça ne suffit pas. Donc... le 26 octobre et le 27, ils lèvent à la fois le couvre-feu et l'état d'urgence. De toute manière, ils ne sont pas respectés, ils sont moqués, et ils envoient un signal extrêmement, extrêmement mauvais.
Oui, parce que là, il démontre qu'il n'a absolument pas le contrôle de la rue, quoi.
Non, pas du tout. Et là aussi, la dernière proposition ou affirmation présidentielle en date, c'est le 28 octobre, le remaniement ministériel. Sauf qu'un remaniement ministériel face à une mobilisation de cette ampleur, ça fonctionne pas du tout, quoi. Mmh. Enfin, les gens lui ont rayonné, en fait. Et la mobilisation ne faiblit pas, quoi.
Mais du coup, la demande de la rue ou les exigences se matérialisent. Qu'est-ce qui est demandé? C'est la démission du président chilien?
Alors oui, il y a la démission du président chilien. Ça, elle est reprise dans tous les rassemblements, y compris à Paris. Renuncia Piñera, ou Piñera démissionne. Mm-hmm. C'est même un trend topic sur Twitter, tu vois, parmi les sujets les plus cités.
Okay.
Les Chiliens, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? J'ai l'impression qu'ils veulent aller plus loin. Ils se battent sur deux fronts, mm-hmm, contre la police. Donc il n'y a plus de militaires depuis la levée de l'état d'urgence, mais il y a des policiers et des policiers qui continuent effectivement les exactions dont on parlait à l'instant. Et à la fois sur un autre plan, sur un plan de beaucoup plus long terme, cette fois-ci, c'est la question d'un changement structurel, on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais de constitution, en fait.
D'accord.
Donc aujourd'hui, ce qui est en train de germer dans les esprits, c'est qu'il n'y aura pas de changement au Chili s'il n'y a pas de changement de constitution.
D'accord. Et donc c'est une constitution participative ou dans cette idée-là, ou c'est...
Alors effectivement, la constitution actuelle, elle date de 1980. Mm-hmm. Ça veut dire qu'elle a été adoptée en pleine dictature.
D'accord.
Cette constitution-là, même si elle a été amendée très fortement en 89 et en 2005, surtout pour les plus grands amendements, pour supprimer les aspects les plus dictatoriaux. Mmh. Par exemple, vraiment, le fait qu'un enfant né à l'étranger de parents chiliens ne pouvait pas acquérir la nationalité chilienne, ça c'était contre les exilés, tu vois. Des choses de ce type, ça a été amendé. Mais malgré tout, il est reproché encore à la constitution actuelle d'être un programme de gouvernement en vue de favoriser la droite,
d'accord,
très clairement, et l'ultralibéralisme des Chicago Boys, en fait.
Oui, c'est ça. C'était un lieu d'expérimentation, le Chili, pour pouvoir appliquer justement des politiques extrêmement néolibérales, qui avaient été effectivement conçues par un certain nombre d'économistes de Chicago. Donc.
Oui, et notamment, par exemple, tu vois, un exemple de cette constitution, c'est l'autonomisation de la banque centrale par rapport au pouvoir politique. Donc le pouvoir politique n'a absolument aucun droit de regard sur la banque centrale. Donc en fait, on crée juste les conditions libérales parfaites, tu vois, pour une économie dérégulée, quoi.
Oui, ils interdisent en fait la possibilité d'une action politique sur la monnaie, qui est quand même un des leviers les plus importants pour un pays. C'est en ayant un levier sur la monnaie, on permet de jouer sur le niveau de vie des habitants et des... Oui.
Exactement, et il y a ça, et effectivement, un autre aspect très important de la Constitution de 80, c'est d'autoriser ce pouvoir discrétionnaire à l'armée. Hein, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est des zones placées sous le contrôle total de l'armée,
d'accord,
c'est la possibilité d'un couvre-feu, etc.
Mm-hmm.
Bon, ça, c'est issu directement de la Constitution. Donc, une Constitution à la fois ultra-libérale et héritée de la dictature, tu vois.
Extrêmement autoritaire. Oui.
Extrêmement autoritaire. Du coup, on peut se demander, pourquoi un tel soulèvement? Tu vois, si c'est pas la question des 30 pesos, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui traverse la société chilienne? Tu vois, à part effectivement cette question
de constitution, mais qui doit dater de longtemps, quoi. C'est pas ce reproche qui est fait à la constitution doit dater de quand même plus d'une dizaine d'années.
Oui, et le soulèvement, un des mots phares du soulèvement, c'est ce sont pas 30 pesos, ce sont 30 ans.
Oui, c'est
fait.
Ça. D'accord.
C'est ce qu'on a vu ressurgir sur toutes les affiches, effectivement, qui parlaient toutes les affiches dans les rassemblements, etc. C'est 30 ans qui est reproché ces 30 ans accumulés de résignation et de soulèvements, mais minimes, qui ont l'air de ressurgir en un mouvement massif et unitaire. Là aussi, les Chiliens répondent, on n'est pas en guerre, on est unis, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de lutter pour la première fois, les étudiants, les retraités ensemble. La question des scandales de l'entente des prix dans l'industrie pharmaceutique, alors même que les médicaments ne sont pas remboursés. la question des 45 heures par semaine, etc. C'est cette société-là entière qui effectivement se pose question. Et à ce titre-là, j'aimerais bien qu'on écoute Franck Godichaud, qui a réalisé, du coup, pour le journal L'Humanité, une petite interview où il explique effectivement les inégalités structurelles dans la société chilienne. Il est maître de conférences en histoire et civilisation de l'Amérique latine à l'université de Grenoble.
Mécontentement dans plusieurs champs sociaux. Au Chili, c'était quelque chose qui devait arriver. On le sentait. Il y a vraiment, ça fait des années que les gens n'en peuvent plus. On voit qu'il y a une accumulation vraiment de mécontentement dans plusieurs champs sociaux. Et puis là, la question du transport, ça a fait exploser ce mécontentement. Alors, en sachant que c'est pas seulement une goutte d'eau, puisque le métro est un des plus chers des Amériques. Il est sur les prix du métro de New York. C'est plus d'un euro le billet de métro. Alors que les travailleurs chiliens gagnent en moyenne, la moitié d'entre eux gagnent moins de 500 euros par mois. Donc c'est quand même sur un sujet très sensible qui affecte la vie quotidienne des 5 millions, 6 millions d'habitants de Santiago. Si on regarde le revenu moyen par habitant, on peut dire c'est un pays intermédiaire, comme il est membre de l'OCDE. Pour certains, c'est même un pays sorti de la voie de développement, qui est riche. Mais en fait, ça c'est vraiment la façade du modèle néolibéral chilien, qui a été mise en place, rappelons-le, sous la dictature de Pinochet, hein, qui a pas un modèle économique qui n'a pas été fondamentalement modifié par la suite, et qui est des plus inégalitaires de l'OCDE et aussi de l'Amérique latine. Et donc ce sont ces inégalités qui sont au cœur de la dynamique de cette révolte populaire, qui est aussi une émeute urbaine. C'est ça qui est intéressant, c'est que, en tout cas, ce n'est pas une force politique organisée, ce n'est pas un syndicat. On peut dire que tout le monde a été débordé dans les formes organisées, instituées. Ce sont les jeunes, déjà, les très jeunes, lycéens, collégiens et étudiants, qui, à un moment donné, ont commencé à sauter les tourniquets, à dire on ne va pas payer, on ne peut plus payer. Notre niveau d'endettement est tellement fort. Le Chili, pour les étudiants, ce sont parmi les plus endettés de la planète. L'éducation est l'une des plus chères par tête et par pouvoir d'achat. Donc ça, c'est aussi au cœur de la machine de l'explosion sociale. Et donc ce sont les jeunes d'abord, des jeunes qui n'ont pas vécu la dictature, qui se rappellent des grandes mobilisations de 2011 notamment. Et ensuite, derrière eux, tout un tas de secteurs sociaux, ici des quartiers populaires, mais aussi on a vu des quartiers dits de classe moyenne, Ñuñoa, par exemple, dans le centre de Santiago, sortir avec les casseroles, se mobiliser dans la rue. Donc c'est vraiment trans-classiste, on peut dire. Ces brèches, ces fissures, elles sont notamment sur la santé. Un système de santé à deux vitesses, où il y a le secteur public pour les plus modestes, les plus pauvres, et ensuite un secteur ultra-moderne, mais privatisé. L'éducation. Et là, on a vu, ces dernières années, le Chili a été parcouru de grandes mobilisations étudiantes, notamment en 2011, mais ensuite, par la suite, on a vu des occupations massives d'universités pour contester le modèle de marchandisation de l'éducation. Même dans l'université publique, il faut payer l'équivalent d'un salaire minimum pour pouvoir étudier. Donc c'est considérable. Troisièmement, les retraites. Un système de retraite entièrement capitalisé, privatisé en 1981 par le frère du président actuel, Sebastián Piñera, durant la dictature, donc ce n'est pas rien. D'ailleurs, un système de retraite qui devrait nous faire réfléchir, nous ici en France aussi, sur quel type de retraite on veut. Ceux qui ont vécu la dictature, ça leur fait froid dans le dos. Ils ont l'impression de revenir 25 ans en arrière, 30 ans en arrière. Ils se rappellent concrètement le couvre-feu, ils l'ont vécu pendant la dictature du général Pinochet, l'état d'urgence en permanence, Donc en ce sens-là, il y a des témoignages de micros de rue qui sont glaçants. Ça montre un gouvernement qui est aux abois, qui est incapable de gérer cette situation de révolte sociale. En même temps, il y a des pillages, il y a des scènes de violence de rue. Et là, de plus en plus, des acteurs sociaux, même des responsables politiques, se demandent comment ça se fait qu'il y a autant de pillages comme ça, sans qu'il n'y ait aucun contrôle. Une petite question aussi, si on ne laisse pas se dégrader la situation, justement pour mettre de côté les mobilisations sur les revendications concrètes par rapport au transport et au modèle néolibéral en général. Du côté de ce qui est la nouvelle gauche, le Front Ample, Front Large, Frente Amplio, il y a eu vraiment du retard à l'allumage, on va dire. Ils ont eu du mal à se positionner rapidement. Leur première déclaration était très timide, en disant fin à la hausse du prix du billet, fin à l'état d'urgence, mais sans se positionner plus largement. Et du côté de l'opposition, qui était la Concertation, qui a été au pouvoir pendant 20 ans, de 90 à 2010, il y a eu des déclarations tout à fait étonnantes qui justifiaient la répression, jusqu'à ce que quand même, dernièrement, là, il y ait un retournement. L'ancien président Ricardo Lagos a dénoncé le président Piñera, qui a quand même parlé d'état de guerre, avec des mots tout à fait effrayants. Et donc là, l'opposition a quand même repris son rôle d'opposition, mais ça reste très timide. Elle, perspective politique pour ce mouvement de révolte sociale.
Oui.
Voilà, donc on écoutait à l'instant Franck Godichaud, du coup, parler effectivement des inégalités structurelles à l'origine du soulèvement social au Chili.
D'accord.
Une particularité aussi de ce soulèvement, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a vu effectivement se joindre les Mapuches. Les Mapuches, c'est qui ? En fait, c'est un peuple. C'est un peuple indigène, en fait, c'est un peuple autochtone du Chili. Hein, ce sont des Indiens qui sont plutôt du sud de Santiago. Et dans les manifestations, on a vu un peu partout ressurgir le drapeau Mapuche, ces fameuses trois bandes avec des symboles au milieu.
D'accord.
On les a vus, donc effectivement, notamment dans les photos qui ont fait le tour du monde. En fait, le Mapuche, en fait, en Mapudungun, donc la langue des Mapuche, ça veut dire le peuple de la terre.
Okay.
Hein, c'est Mapuche. Selon le recensement officiel de 2002, il représente 4% de la population chilienne, soit près de 90% du total des autochtones vivant au Chili, donc un peu plus de 600 000 personnes. Mais les statistiques donnent un nombre encore plus élevé. Donc aujourd'hui, ce qui se passe essentiellement, c'est que les Mapuches se battent pour la préservation de leur territoire, hein, contre les multinationales, essentiellement, et pour l'autodétermination. Et leur mouvement est criminalisé depuis bien avant la dictature. Et on les voit rejoindre effectivement ce mouvement social, ce qui lui donne une toute autre ampleur. Je propose d'écouter un petit reportage, un petit extrait d'un reportage de France 24, tout de suite sur la question Mapuche.
Temuco, au sud du Chili, le cœur du pays des indigènes Mapuche, bastion de leur lutte historique pour la récupération de leurs territoires ancestraux. Ce combat mène régulièrement leurs activistes en prison. Pour les Mapuche, c'est devenu un lieu de ralliement. Ce matin, ils sont une centaine à être venus de toute la région, à l'initiative de Gabriela, une leader Mapuche.
Vous allez devoir attendre parce qu'on va déjeuner. Mais attendez, on s'était mis d'accord sur cet horaire. Ça leur prend 2 minutes de nous faire entrer, c'est vraiment de la mauvaise volonté.
Gabriela est furieuse. Ils ont tous fait des heures de route pour réaliser une cérémonie religieuse au sein de la prison, en soutien à plusieurs activistes incarcérés.
On est là pour ne pas laisser nos frères en prison seuls. Mais ce n'est pas normal qu'on soit confronté à cette situation. Ils ne devraient pas être en prison. La Convention 169 protège soi-disant les droits des peuples indigènes, mais malheureusement au Chili, elle n'est pas respectée.
Ils finiront par réussir à entrer dans la prison sans incident. un geste des autorités pour apaiser une situation sous haute tension. En juillet dernier, la même visite a dégénéré en violentes altercations. Bilan, une cinquantaine de blessés. La résistance mapuche se radicalise. Des groupes masqués attaquent les entreprises installées sur leur territoire, leurs terres ancestrales. L'État répond par la force et réprime toute contestation. Le président Piñera en a fait sa priorité.
Il existe clairement du terrorisme dans la région et la plupart de ces attentats terroristes sont revendiqués par un même groupuscule.
La branche la plus radicale de la lutte mapuche s'appelle la CAM. À sa tête, Héctor Lialtoul.
Vive la lutte du peuple mapuche !
Nous nous rendons chez ce leader autonomiste à 2 heures de route de Temuco, au cœur du bastion rebelle. Avant l'arrivée des Espagnols, le territoire mapuche s'étendait sur 100 000 km². Aujourd'hui, il ne leur reste que 5% de ses terres.
Comme d'habitude, le terrorisme ou la criminalisation ou la terrorismisation des individus est utilisé pour justifier des actes fascistes.
Oui, et puis également pour justifier, si tu veux, le fait qu'on soit en train de spolier un peuple de ses terres. Et là-dessus, il c'est assez cohérent que les Mapuches s'unissent au mouvement social parce que la spoliation des terres et des ressources naturelles, elle concerne pas seulement les Mapuches, elle concerne tout le monde au Chili. Il faut savoir que le Chili, c'est un pays très riche en termes de ressources naturelles. Hein, c'est 34% des ressources mondiales de cuivre. Et c'est le deuxième plus grand gisement mondial en lithium, après la Bolivie. Le lithium, je rappelle qu'il est utilisé notamment dans les batteries et dans l'électronique.
Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de batteries de téléphone.
Voilà, donc c'est extrêmement prisé. Et c'est un exportateur de fruits et de légumes dans le monde entier. On voit partout les fruits ou les avocats du Chili.
Surtout là, cette période où ça va être l'hiver, et donc normalement on n'est pas censé avoir des bananes et des fruits d'été, mais ils viendront du Chili et beaucoup de gens achèteront ça facilement sans se poser la question, en plus de l'empreinte CO2.
Oui, et c'est vrai que cette question de la monoculture, et notamment la monoculture des avocats et des mines, en fait, elle a une conséquence incroyable, c'est qu'elle détourne notamment l'eau, donc juste l'eau, hein, là, cette fois-ci, on n'est même pas en train de parler d'une ressource naturelle rare, mais juste de l'eau, par des bassins et des barrages, en fait. Donc, il y a des régions entières où la population n'a pas accès à l'eau. Il y a des dénonciations au niveau de l'ONU pour la violation du droit à l'eau. Et effectivement, ce mouvement social a eu aussi pour conséquence que, pour éviter la fronde dans certaines régions, il y a des exploitations ou des industriels qui ont réouvert des barrages pour donner à nouveau accès à l'eau à une partie de la population et aux animaux.
Pour calmer les tensions.
Exactement, pour calmer les tensions. Pour clore ce sujet, je te propose d'écouter une chanson que j'aime beaucoup d'un groupe qui s'appelle Calle 13. En fait, c'est une chanson cette fois-ci panaméricaine, pour ne pas oublier qu'il se passe des choses effectivement au Chili, mais il se passe des choses en Haïti, il se passe des choses en Équateur actuellement. Et du coup, parler plutôt de l'Amérique latine que seulement du Chili.
D'accord, mais ensuite, on se reverra pour les colleuses où je vous présenterai un peu.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tata hawa ya tata kuda pu ya rima ni kuda wa ni kuda para ikuna. Kuna ka allí en taque wa ira kuna chay muka kay Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13. Y las patas me muso taquita pomanchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusanchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. placeres, soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Donc la lutte contre les féminicides ne date pas de ces derniers mois, bien sûr. Le ras-le-bol général vient accompagné par la libération de la parole, survenue à la suite de MeToo, de Balance ton porc. Des femmes, souvent jeunes, s'organisent depuis un peu plus d'un mois pour manifester leur colère sur les murs de nombreuses villes à travers la France. Dimanche dernier, encore et encore plus, dans les trois prochaines nuits, ces jeunes femmes se réapproprieront la rue, la colère et leur vie pour changer le système. pour que la peur change de camp.
Bonjour, moi c'est Eden, j'ai 23 ans.
J'ai de l'acrylique, mais de l'acrylique d'art plat.
Ah, c'est vous.
Mais
hein,
du coup, elle sèche plutôt
vite. On sait qu'il y a peut-être 100 femmes qui, pour la première fois...
Je m'appelle Noah et j'ai
redécouvert leur pouvoir politique. Et ça change tout. Ça fait croire en la révolution, ça fait croire en la possibilité de changement. Parce que c'est magnifique de les revoir revenir le lendemain matin et nous raconter comment elles se sont réappropriées un espace qu'elles avaient intériorisé comme étant pas pour elles.
Je dilue avec un peu d'eau. Je ne vais pas masse de peinture.
Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, la peinture que j'utilise, en fait, c'est de la bête peinture que tu as en cours d'art.
Ça va peut-être pas gâcher ton...
Mon balai sec, en plus elle vient de chez Lidl, mais et du coup genre j'ai peint avec la semaine dernière, pas du tout pour les collages, okay. Mais ça s'agit genre en 10 minutes. Ok, du coup plutôt pratique.
On veut faire ça
et sensibiliser là-bas.
Ouais, ouais.
Du coup ça c'était quoi?
Ça c'était votre patriarcat, notre combat.
Ok.
Mais je sais pas si...
j'ai peur que ça puisse être détourné en fait, tu vois.
C'est ça. Mais moi je voulais plutôt les garder genre pour les coller à Tolbiac.
Ouais.
Parce que il y a beaucoup de. Je sais pas, dans la façon dont on apprend la socio ou les trucs comme ça. Du coup, je sais pas.
Ok, de toute façon, peignons d'autres slogans et puis on verra après. J'ai un bon portable pour avoir des.
J'ai d'autres noms de là. Je vais voir, tu auras des à notre débarquement et mes différentes tues.
Ok, cool.
Donc du coup, on va en faire 3 ou 4, les laisser sécher, et après on fait la colle et on bouge.
J'aurais dû ramener les slogans que j'ai en rame aussi.
C'est pas grave.
Mais oui, j'en avais des super longs, tu sais, Razia tué par son ex.
On peut en faire un long et deux pas trop longs. Évidemment, le mode d'action, il est fait pour être partagé, être pris. C'est justement un mode d'action qui est simple, parce que ça nous permet de... Ça nous permet d'aller vite dans l'apprentissage les uns aux autres. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on a... Par exemple, on ne colle pas pour la plupart en mixité. Des choses parce que symboliquement, on réapproprie un espace qui n'est pas fait pour les femmes. Et parce qu'on nous demande de ne pas prendre de place, d'être petite, de baisser la tête, etc. Et symboliquement, de prendre des feuilles et de prendre de la place, reprendre un espace qui justement peut être terrorisant pour les femmes, c'est important pour nous que ce soit fait par des femmes, pas que pour les femmes, c'est pour que toute la population prenne conscience des féminicides et des problèmes des femmes. Mais l'action en elle-même, c'est important, en tout cas, tout peut être discuté, mais c'est important pour la plupart d'entre nous que ça reste des femmes qui collent. Parce que,
on va dire que c'est pas une règle qui a été décidée comme ça, en mode de manière arbitraire, etc. Ah, c'est plus une sorte d'accord tacite qu'on s'est fait avec...
L'expérience.
C'est ça, enfin, c'est... Bien sûr, il n'est pas interdit d'aller coller avec un mec, enfin, il n'y a aucun mec à qui on va dire manière...
Ouais, il va pas coller.
C'est ça, enfin, ne colle pas, enfin, c'est plus la question, ne viens pas nous demander si t'as le droit de coller ou pas, en fait, si toi t'as envie de coller, va coller, mais après, sache que si c'est pour juste te sentir l'envie de faire partie d'un collectif qui est de plus en plus actif et de plus en plus... visible, enfin que entre guillemets faire ça pour être dans l'actualité du militantisme tel qu'il se fait aujourd'hui, c'est ça. Enfin c'est
hors de question.
C'est pas la peine en fait.
Et même si c'est par exemple pour se déculpabiliser ou avoir la sensation d'être déculpabilisé probablement, de pouvoir être considéré comme oppresseur dans une société patriarcale, de faire une action féministe. Pour se dire, ah oui, alors moi je ne suis pas oppresseur, en aucun cas je ne peux commettre des oppressions parce que j'ai participé à une action militante. C'est pareil, ça nous...
On n'est pas là pour donner une validation, on est...
Ni à nous-mêmes hein, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, enfin, on ne recherche pas que qui que ce soit dans cette action-là soit validé, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles le mouvement est anonyme. Après oui, il y a quelques noms qui reviennent, etc., parce que on est tagué par rapport à nos comptes Insta ou ce genre de choses, mais pour autant c'est pas, Il n'y a pas d'idée de nommer un collectif, de nommer une association, quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment, ça part sur une réaction, une sorte de spontanéité et un anonymat, parce que c'est quelque chose qui nous concerne toutes.
C'est ça, et dans l'anonymat, il y a cette façon, ça permet que chacune se reconnaisse. En même temps, ça peut être tout le monde, en même temps, ça peut être la voisine, ça peut être quelqu'un qu'on connaît. Et dans l'anonymat de nos actions, nous, ça nous permet de que chacun puisse se reconnaître dans le message, que nous-mêmes, on puisse se reconnaître dans le message. Et on évite à tout prix l'égotrip, parce que dans le militantisme, il semble y avoir de temps en temps des problèmes d'égotrip qui, nous, en tout cas, ne nous intéressent absolument pas. Et pour éviter ça, parce que c'est humain, en fait, de gratifier son égo, on essaye au maximum d'éviter, par exemple, de poser devant... certains collages où il y a les noms des femmes qui ont été assassinées parce qu'on ne revendique pas quelque chose pour notre image, de pas forcément donner notre nom de famille, pour pas essayer d'avoir une visibilité sur ça. C'est parce que pour ça, nos prénoms, en fait, ça pourrait être n'importe qui. Donc ça nous permet d'être très lente. Ça peut être Ariane. Allô ? Oui ?
Après, il y a quelque chose qui est aussi très touchant avec le fait que nous, on a notre entre guillemets, action qui est anonyme, et il y a de l'autre côté les personnes qui vont pas forcément aller coller ou quoi que ce soit, parce que je ne sais rien, je ne sens pas forcément la force ou la capacité, les moyens de le faire, parce qu'elles peuvent être mineures ou quoi que ce soit, et qui vont nous apporter leur soutien malgré tout avec... à des petites actions à côté, comme remplacer les lettres qu'on a pu manquer parce qu'elles ont été enlevées, parce qu'elles ont été abîmées ou quoi que ce soit, ou nous apporter des petits mots de soutien, ou participer à la cagnotte, etc. Et c'est autant de moyens qui finalement contribuent à la fois à nous aider à lutter contre les féminicides, d'en parler, etc. Et en même temps, c'est aussi important, en fait, parce que ça veut dire qu'on arrive à toucher le grand public, entre guillemets, et qu'on arrive à sensibiliser les gens, et que plus il y aura de personnes qui seront sensibilisées, plus il y aura de personnes qui porteront la question sur le devant de la scène. Et c'est, si nous, on se le revendique pas, en tout cas, c'est super important d'avoir une revendication par rapport à ça, par rapport à cette question de il faut en parler, il faut que ça soit, mis en lumière, que ça soit pas tu, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas d'omerta dessus comme peut le faire la justice sur certains assassinats. Donc
et après on fait la colle, hein.
J'aurais dû ramener les slogans que j'ai en rame aussi.
C'est pas grave.
Mais oui, j'en avais des super longs, tu sais, Razi a tué par son ex.
On peut en faire un long et deux pas trop longs.
T'as repéré les murs ou pas?
Non, mais je sais qu'à Gambetta et dans le 20e, il y a des longs pans de murs. Tu vois, même sur le... Je sais pas comment dire. Dans ma tête, je me comprends.
Il y a l'hôpital à Gambetta, non? Je sais pas si t'as...
Je sais pas.
Bon, on verra après.
On verra. Mais après, objectivement, tu vois, je repère rarement des murs. Tu vois, je suis passée l'autre jour, je me suis dit à Gambetta, il y avait pas mal de place et j'ai pas vu beaucoup de slogans.
Ça marche, bah faisons ça, oui, les gens ça n'en tire pas forcément plus.
Au pire on tournera un peu et on peut descendre un peu vers, je sais pas, genre les trucs de la 3 bis, à la limite. Et aller à des endroits où il n'y a personne qui prend jamais le métro, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collages vers là-bas.
C'est
vraiment marquant. Un jour on a tous parlé, plus ou moins, je sais pas comment le sujet est venu, mais il y a une sorte de déferlante de moi aussi. De moi aussi, je me suis fait agresser. Alors moi, c'était à 16 ans. Moi, c'était là. C'était comme ça. C'était les noms qui changeaient, les âges, peut-être le lieu, mais c'est tout. La même histoire. Toujours répétée. Tout le temps. Et chacune, on était peut-être 50 ou 60 dans le QG ce jour-là. Et c'était une déferlante de moi aussi. Sans arrêt. Et c'était glaçant. Mais en même temps, c'était tellement touchant. Tellement horrible de se dire que oui, en fait, que le jeu a vécu, qui est terrorisant, qui est difficile, etc., bah, y a un tu qui l'a aussi vécu. Et à ce moment-là, il y a une remise en question de la solitude qui fait vachement de bien, et en même temps, une grosse rage, une énorme rage. Parce qu'on dirait que plus on milite, plus on se rend compte, plus on fait d'action, plus on se rend compte de l'étendue de la merde dans laquelle on est, l'étendue des problèmes de la situation. De toutes ces histoires, bien sûr que je savais que les viols, les agressions, c'était commun, mais en cette cette façon où c'était saccadé à la suite, on entendait, on s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas. Il y a eu un truc de mais le soir, j'ai collé toute la nuit, je ne pouvais pas m'arrêter. Et pour les milliers de raisons qu'il y a aussi, je ne veux pas m'arrêter à faire des tonnes d'actions et de tonnes de choses, mais on se rend compte de notre non-habitude qui est aussi énervante que rassurante. Rassurante parce qu'on peut discuter, rassurante parce que ça crée de la sororité, terrorisante parce qu'il y en aura probablement d'autres. Mmh. Et que le chemin, il est long, il est très long. Mais bon, on a l'espoir, c'est pour ça qu'on continue.
J'ai l'impression qu'à travers la lutte, vous vous émancipez.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a un pouvoir cathartique à la lutte qui est phénoménal. C'est-à-dire un pouvoir de sa propre individualité, la propre façon dont on vit, que ce soit le capitalisme, que ce soit le patriarcat, etc. C'est-à-dire que ne pas se sentir seul, c'est presque révolutionnaire dans un système qui nous pousse à se sentir seul, à être un individu qui ne va pas se confier ou qui ne va pas souffrir, qui ne doit pas souffrir, qui doit être dans la norme. Et on s'émancipe en tant qu'individu, en tant qu'individu qui fait de la politique, en tant que femme. Bien sûr que c'est émancipateur et c'est pas pour ça qu'on lutte, mais c'est pour ça qu'on tient la lutte.
Je pense notamment qu'il y a pas mal de messages qu'on a reçus, que ce soit de la part des familles des victimes ou de la part de femmes qui sont dans des situations elles-mêmes où elles sont victimes de violences conjugales, etc., et qui nous disent que ça leur donne de la force. Et vraiment, même si j'ai conscience que on n'a pas de victoire là actuellement, on n'a pas de, enfin franchement le Grenelle ne fait rien de particulier, ne propose pas de mesures particulières qui puissent vraiment permettre de résoudre entre guillemets la situation ou de l'améliorer.
Moi, je prends le temps de me préparer, ça veut dire que j'enfile mon pull qui est déjà plein de colle, j'enfile le jean qui est fait pour être dégueulasse de colle, des chaussures plates, je devrais faire attention aux os. Non, je comprends. Pour avoir une vision globale. Après, il y a la mairie. Ouais. Mais si on
repliait sur la mairie. Je veux bien croire qu'ils soient friendly, mais... friendly jusqu'à ce qu'on leur colle dessus.
Oui, il était 3h du mat.
C'est vrai. Une fois, on s'est fait la nuit entière à coller jusqu'à 7h du matin. On en a collé 25 ou 30. C'était combien? Nous deux.
Ok.
Notre plus bel exploit.
Ah oui.
Alors.
La mairie, c'est là. Hein.
Oui, la mairie, c'est là, mais on va peut-être commencer par la mairie. Sur la statue, là.
Elle sur le tour. Oui.
Ouais. Alors, moi, je propose qu'on commence enfin, d'abord peut-être par... Par contre.
Sinon, on va être obligé de faire trois fois le tour du rond-point.
Attendez, mais vous voulez pas commencer par des murs un peu plus à l'écart, entre guillemets, pour finir par ceux
ouais, où on peut vraiment se faire choper, sinon on va pouvoir en poser que deux et ça va être regrettable. Ouais, il y a l'hôpital Tenon aussi de l'autre côté.
On va où tu veux.
Peut-être partir par là.
Ouais.
Moi j'ai une vraie question.
C'est devenu à la mode les publicités avec des faux tags. Ah. Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte si on se met à vraiment taguer les publicités?
Tellement de questions.
Là,
voilà. Là. Ouais.
Ils sont très beaux ces murs, dis donc.
Ouais, bah
j'aime vachement envie.
Ils ont l'air lisses, hein.
Après tu me diras, vieille mairie, pierre de taille, donc pas si poreuse que ça.
Ouais.
On a des pierres quand même. Les murs maintenant, c'est impressionnant. T'as envie de les toucher.
J'ai l'impression d'être une ninja avec mes deux pinceaux, là. Tu sais, avec les gâchettes, comme ça.
T'as vu le dessin?
Ouais, merveilleux, ouais.
Le dessin avec les colleuses en action
ouais.
Et tu vois les coups de pinceau dans tous les sens et il y a vraiment cette sensation là vu que t'es obligé d'aller vite.
Dans le dépôt de bus une fois et qu'on fasse tous les bus. Genre, Eden merde, on va vraiment se faire prendre, mais...
Mais je crois que... On a genre... Quand j'arrête de pousser, je te dis. Non, non, je ne peux plus. Et... on a... connaissent des gens qui ont des clés. Genre, clés de batte ou clés de... Bah, comme toi.
Ah oui, toi.
Bah oui, mais c'est... même Apolline elle avait des potes. Et moi, j'ai des endroits pour rentrer dans les maisons abandonnées, ce qui va nous servir à rien. Mais, ouais. Ici, il y a un drapeau français.
Oui. Oh oui. On est à quoi, là? On a...
Je sais pas, il...
Trois bras, je crois. Est-ce qu'on a un slogan à trois bras?
Jamais différentes tuées.
Non, le trompeau pour un mec en plus, là.
Ouais, aux femmes assassinées.
On avance un petit peu pour voir parce qu'il y a un grand bâtiment, je sais pas trop ce que c'est. Je me demande si c'est pas l'hôpital. Donc à la limite qu'on aille jeter un coup d'œil de toute manière vu qu'on n'a pas fait de repérage avant, autant quadriller un peu. Quelqu'un prend le seau?
Okay. Il y a on commence par la dernière lettre à l'inverse en fait. Comme ça on n'a plus qu'à poser feuille par feuille pour toujours souci de facilité, parce que sinon si on devait chercher les lettres au milieu dans la rue, ce serait horrible.
On a besoin d'aller vite en fait, et bon, en général ça marche mieux avec les feuilles de papier machine, mais on peut juste glisser une lettre de telle manière à ce que le slogan soit déroulé dans son entièreté assez rapidement, parce que bah malgré la légitimité de notre action telle qu'on la voit, telle qu'on la considère, telle qu'on la revendique, on reste quand même dans le jeu.
T'en mets pas trop bien les placer après je le pense, je reprends.
Marianne, tu peux lire la phrase s'il te plaît?
Féminicide, la police s'en lave les mains, le sang reste.
Non. Il y a des actions qui sont prévues dans... Enfin, on ne donnera pas les dates, en
non,
fait.
On n'aura pas les lieux non plus.
On n'aura ni les lieux ni les dates, mais il y a des actions qui sont prévues. Parce qu'on
a besoin de se faire entendre haut et fort, parce que malheureusement, bah, les collèges rentrent de plus en plus dans le quotidien, entre guillemets.
En fait, on utilise le nombre qui augmente de colleuses à bon escient, c'est-à-dire dans des actions... viser des actions spécifiques.
Moi ça me paraît bien hein, de réduire à des tares, non?
Moi je trouve que ça rime pas.
Et regarde, c'est quoi? C'est nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes réduites à des tares.
Oui ça marche, je crois. Ça sonne un peu Disney, mais ça marche.
C'est une fausse rime, mais ça va.
C'était un truc en temps de guerre, je crois, qui a été repris.
Alors,
sur la page Instagram de Collège Féminicide Paris, il y a le lien dans la bio, dans la description, pour participer au pot commun. Et juste vous cliquez dessus et vous avez tout indiqué. Si vous voulez laisser même 1 euro, étant donné que la colle, ça coûte 2,50, même 1 euro, ça nous aide. Et ça nous permettra de continuer à donner de notre temps, de notre investissement, de notre énergie, etc., sans être bloqué par des questions financières, en fait.
Est-ce que d'ici le 5 novembre, où cette émission et ce reportage va être diffusé, il y aura quelque chose qui se sera passé?
Ouais.
D'accord. Ok, bah, à ce moment-là, je vous raconterai ce qui s'est passé, puisque là, aujourd'hui, le 26,
oui.
Je ne sais pas. Donc... Donc pour les soutenir, donc c'est assez simple, hein, il faut taper sur votre moteur de recherche collage féminicide et aller sur leur compte Instagram, et dans leur bio ou dans leur description, vous trouverez un lien pour les aider et acheter du matériel. Mais évidemment, le meilleur moyen de les aider est d'aller à votre tour dans la rue et de recouvrir les murs de slogans. Car c'est en imposant ces messages que l'on finit par l'imposer à un état un puissant volontairement ou pas. Je vous rappelle aussi qu'il y a une énorme manifestation le 23 novembre prochain, organisée par nous toutes et par plein d'associations. Donc je vous encourage aussi à vous renseigner pour rejoindre cette manifestation qui sera vraiment extraordinaire. Un petit extrait de Bruce Springsteen et ensuite on retrouve David Dufresne.
And we'll take that ride across this bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying is alive. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret.
It ain't no secret.
No secret, my friend. You get killed just for living in your American skin.
41 shots. 41 shots. 41 shots. 41 shots.
Lena gets her son ready for school. She says, on these streets, child rules, you've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never ever run away, and promise mama you'll keep your hands inside. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret, no secret, my friend. You get killed just for living in your American skin.
41 shots. 41 shots. 41 shots. David Dufresne, merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Alors, vous êtes journaliste. De novembre 2018 à juin 2019, vous avez documenté et compilé les violences policières contre le mouvement Gilets jaunes, avec des signalements, un fameux « Allô Place Beauvau » commencé sur Twitter, puis hébergé par Mediapart, qui est devenu une référence. Au total, vous avez compilé plus de 850 faits, un travail, effectivement, référence pour l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen. Il faut rappeler qu'au cours de ce mouvement, 24 personnes ont perdu un œil. 5 personnes ont perdu une main et 2 personnes sont mortes. En octobre est paru un roman autobiographique, Dernière Sommation. Merci d'être ici pour nous parler de votre livre et de la question des violences policières.
Ben merci de me recevoir.
Et d'abord un petit extrait audio issu d'une histoire populaire de Howard Zinn, dans lequel on parle de manière indirecte de votre livre.
Shower of
L'histoire que vous venez de voir, nous l'avons présentée un soir à la Bastide Rouérou, dans le Tarn, en France. Et dans le public, une dame, très courtoisement, nous a fait observer qu'à la même époque, il y avait eu la même histoire dans le Tarn, en France. En 1909, la grève des déléneurs à Mazamet, puis à Groyais. À Groyais, 147 jours de grève. Des femmes, pour la plupart, payées moitié moins que les hommes. Ateliers puants, produits gravement toxiques. Grève, donc, grève longue et assiette vide. Alors, à Groyais, on a inventé les soupes communistes. Et les enfants ont été recueillis dans des familles à travers le pays. La même solidarité qu'on vient de voir avec les enfants accueillis à New York. En Angleterre, en Allemagne, en France... aux...
Oui, alors effectivement, Groyais, c'est une des villes par lesquelles commence votre roman. Oui. Sur un rond-point de Groyais où vous croisez, ou Dardelle croise des gilets jaunes. Et pendant lequel se passe une sorte de compréhension de ce qui est en train de se passer, et que c'est quelque chose de fond qui se passe. Et moi, le lien, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui nourrit ce premier tweet en se disant, parce que ça fait longtemps que vous êtes sur Internet, ça fait longtemps que vous connaissez Twitter, etc. Vous savez que quand on commence un tweet de cette manière-là, c'est parce que il y en aura quelques-uns derrière, sait. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous dit, lançons-nous là-dedans ?
Alors là, il y a plusieurs choses. D'abord, je connais pas cette adaptation documentaire du bouquin de Dvorzine dont vous venez de passer un extrait. Donc, effectivement, c'est Mermet qu'on entend, qui parle de ce village, enfin de cette petite ville grelée dans le Tarn, qui effectivement est un élément de décor, un peu plus que ça, de mon roman. Mais alors, je suis hyper emmerdé, parce que en fait, si j'avais su, j'aurais mis ça dans le roman. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je découvre, donc, c'est fin novembre 2018, au détour d'un voyage, je découvre les gilets jaunes dans un rond-point. Dans cette petite commune, sans savoir là ce que Mermet vient de raconter. Et effectivement, c'est un des points de départ du roman qui s'inspire très largement du travail dont vous venez de parler, c'est-à-dire de mes signalements sur Twitter en tant que, on va dire, journaliste indépendant, documentariste, écrivain, je sais pas trop en fait ce que je suis. Et donc effectivement, début décembre, 2 ou 3 décembre 2018, je fais mon premier signalement à l'eau Place Beauvau, c'est pour un signalement numéro 1. Et en l'espèce, c'est un gamin, c'est un lycéen qui, je crois, ça j'en suis sûr, il est touché à l'œil, je crois, par un LBD. Et je ne sais pas si c'est un des éborgnés dont on parlait tout à l'heure, mais au début, les signalements, c'est autant les lycéens qui manifestent contre le Parcoursup que les gilets jaunes. Début décembre 2018, il y a cet acte 3, l'Arc de Triomphe à Paris. Ensuite, Zineb Redouane à Marseille. Il y a quelques jours plus tard, Mantes-la-Jolie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a un basculement. On est dans quelque chose de terrible en termes de répression, de maintien de l'ordre, etc. Donc moi, je démarre ce premier signalement en me disant, en fait, que ça va s'arrêter. Non pas le mouvement des Gilets jaunes, parce que... Alors maintenant, là, en entendant Mermet, je comprends mieux pourquoi ces gens étaient très déterminés. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un héritage donc de 1909, si j'ai bien compris. Enfin, avec les sous-communistes, c'est extraordinaire, cette histoire. Donc, effectivement, là, moi, j'avais vraiment, vraiment senti la détermination des Gilets jaunes. Mais je pensais, quand j'ai commencé les signalements, que on va dire que la part républicaine de la fameuse, je dis ça avec des guillemets, un peu un sourire de la police républicaine, reviendrait quand même. Et que au plus haut sommet de l'État, il y aurait quand même quelques personnes pour dire ça va pas.
Et qu'en attendant, j'allais faire des signalements, mais je m'attends pas du tout à ce que ça va durer 8 mois. C'est jamais de la vie. Je pense que je vais passer, en tout cas pour les premiers mois, jusqu'à 15 heures par jour à documenter, vérifier, contacter des gens. Enfin bon, voilà. Et puis en fait, vous avez raison. C'est-à-dire que en fait, je mets dès le début le doigt dans une spirale. Alors, qui n'est rien comparé, je veux dire, aux souffrances des mutilés, des blessés, des gens désocialisés, des gamins déscolarisés, suite à leurs blessures. Mais enfin, je me prends en pleine face tout ça, quoi. Voilà. Ouais.
Et alors, justement, vous dites que vous écrivez dans votre roman que l'ordre qu'il faut maintenir ou rétablir, c'est toujours celui de l'État. C'est la raison pour laquelle Dardel, c'est vous dans le roman, adressait chacun de ses tweets à Allo Place Beauvau et non à Police Nationale. L'affaire était politique, Dardel visait moins ceux qui maniaient les armes que ceux qui les armaient, moins les flics que les politiques. Est-ce que ça revient à dire qu'avec ce Allo Place Beauvau, vous n'êtes pas effectivement contre la police, mais contre l'État policier ?
Oui, alors c'est ce que dit le personnage. Alors là, je vois qu'on est bien à Radio Libertaire, c'est à l'État, quoi. Voilà, la question de l'État. Mais évidemment que c'est la question centrale. Je veux dire, c'est celle-ci, c'est-à-dire que la fameuse phrase de Weber de 1919, qui a donc 100 ans cette année, qui est ressorti constamment, alors qui est d'ailleurs un peu détourné, parce que la fameuse phrase de ce sociologue allemand, je vais répondre à votre question, c'est « l'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence légitime ». Souvent, le mot « revendiquer » est remplacé par « détient » ou « possède à ». Bon, en fait, non. Weber nous dit bien « il revendique ». C'est-à-dire que l'État dit « moi je revendique ». C'est-à-dire que c'est pas qu'il négocie, mais il y a matière, en tout cas, à contester, à négocier, puisque quelqu'un revendique, quelqu'un peut dire, bah non. Enfin, voilà, il y a matière à discussion. Donc, Dardel, ce personnage, il est là-dedans. C'est-à-dire qu'il est là en train de dire, c'est quoi l'État? C'est quoi la violence légitime? C'est quoi le monopole? Et effectivement, alors je ne sais pas quel est le point de vue de Radio Libertaire sur la question de la police, mais effectivement, ça n'est pas un abolitionniste. Ce n'est pas quelqu'un qui dit il n'y aura, on peut vivre sans police. Voilà. Lui, il est plutôt sur le mode qui est quand même largement partagé par la population, c'est-à-dire il y a une police. Et en ça, c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Pour que les droits de l'homme soient opérants, il faut l'institution d'une force publique. Voilà. Mais la question, c'est au nom de qui, pour qui, par qui, comment. Et ce qu'on voit avec ce que Dardel voit, mais ce que tout le monde a vu, évidemment, avec les Gilets jaunes, c'est que cette force publique, donc la police, elle a été assez peu républicaine. Elle a été assez peu pour le public, justement, pour les citoyens. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'elle était là, pour le coup, au service de l'État, qui se défendait. Voilà. Donc c'est tous les enjeux sont ici, quoi.
Et alors, justement, je voudrais revenir sur un point de détail, mais qu'on n'est pas complètement. Vous dites parfois, c'est Dardel qui pense ça, et là, c'est moi. Mm-hmm. Du coup, j'aimerais juste revenir sur la question de la fiction, pour ceux qui ont suivi vos signalements et qui ont lu vos autres livres documentaires, pourquoi est-ce que tout à coup vous décidez d'écrire de la fiction et allez-vous la frontière entre Dardel et vous ?
Alors il y a plein de... Alors, d'abord Dardel il est mieux que moi, je peux vous le dire, donc le personnage il est vraiment mieux que moi. Il y a plein de raisons, vraiment la principale c'est que j'avais le sentiment qu'il fallait répondre dans l'urgence à l'urgence, et notamment sur la bataille des mots. Alors c'est pour ça que Warzine c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est cet historien qui nous a démontré que l'histoire était vraiment écrite par les vainqueurs et que qu'il fallait de temps en temps rétablir les choses, quoi. Eh bien, vraiment la phrase. Alors moi, je démarre le roman en secret, on va dire en février, d'abord pour tenir, parce que moi j'ai c'est mes armes, c'est d'écrire depuis très longtemps. Et arrive en mars cette phrase, cette déclaration d'Emmanuel Macron, pour moi centrale, quand il dit lors de prétendu grand débat. vous ne pouvez pas parler de répression, de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. À partir du moment où Macron, président de la République, nous explique que c'est lui qui choisit les mots, à ce moment-là, il faut livrer, après la bataille des signalements, ou pendant la bataille des signalements, des vidéos, des photos, il y a aussi la bataille des mots, quoi. Donc, pour moi, le roman est plus accessible, plus rapide, offre un poste d'observation synthétique qui permet de répondre dans l'urgence. Là où un essai, un document, m'aurait demandé 4 ans ou 5 ans, comme j'ai pu le faire, par exemple, pour l'affaire dite de Tarnac. Mais l'affaire dite de Tarnac, donc j'imagine que nos auditeurs se souviennent, mais grosso modo, c'est donc ces gens accusés de terrorisme parce qu'ils ont mis des, enfin, ils sont accusés d'avoir mis des fers à béton pour ralentir les trains SNCF, qui eux-mêmes ralentissent le convoi d'un train de déchets de nucléaire qui part de La Hague en Normandie pour aller en Allemagne. Eh bien, moi, je vais passer 4 ans, je vais écrire un bouquin là-dessus, j'ai rencontré tout le monde, je veux dire, le juge, les mises en examen, les flics, jusqu'à Squarcini, enfin, c'est un gros boulot, 4 ans de boulot, à la recherche d'une vérité qui ne serait pas la vérité judiciaire, mais qui était ce que j'appelais la vérité humaine. Et 10 ans plus tard, en 2018, 10 ans après le début des faits, que nous dit la justice dans sa grande sagesse? La justice nous dit dans les attendus du jugement, où je rappelle que tout le monde a été innocenté, le groupe dit de Tarnac est une fiction. Ben là, vous dites merde. Ben, je vais écrire des romans alors. Si c'est ça, je veux dire, je blague, mais d'une certaine manière, pour moi, la fiction, c'est une autre manière de raconter la réalité. C'est une autre manière d'être traversé par le réel. C'est une autre manière d'être dans... quelqu'un a écrit une recension de Dernière Sommation, du bouquin, en disant « c'est une biographie de l'actualité ». Je trouve ça pas mal comme idée, quoi. Voilà. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui est de Dardel ou de moi? Je pense pas que ce soit le plus intéressant, si je peux me permettre, mais surtout l'idée, c'est que si on commence à dire ça c'est vrai, ça c'est à moitié vrai, ça c'est faux, on perd, je le crains, le plaisir de la lecture, voilà. Mais on va rentrer dans les détails. Je veux dire que l'autre avantage, par exemple, par rapport à un essai, à un document, c'est que la fiction s'affranchit de la question du off et du in. En fait, tout est off et tout est vrai. Donc les flics, je pense que dans le roman, parlent plus vrai que dans les différents bouquins que j'ai pu faire avant, où finalement, quand j'interviewais, que ce soit en off ou non, un flic, il y avait quand même cette retenue. Il parlait à un journaliste qui allait faire un bouquin, etc. Donc c'est pas l'exact vocabulaire. Là, le roman... je récupère, je crois, le vocabulaire. Quand je raconte la salle de commandement de la préfecture de police, on est vraiment dedans. Et je la raconte parce qu'elle m'a été racontée par des gens qui ont pu y travailler, etc. Et tout le monde était autour de la table, était affranchi, quoi. Il y avait pas cette question de est-ce que ça va finir au Canard Enchaîné ou à Mediapart ou à Radio Liberté, je ne sais quoi. Mmh. Non, c'est pour un roman, donc on peut se lâcher. Et en fait, on est plus près de la vérité sur certains points.
Ce que je vois qui représente ça beaucoup, c'est la rencontre au café Jadis, oui, avec le syndicaliste. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a une sorte de condensé de plein de rencontres, de plein d'échanges qui, oui, ont eu lieu au cours de la dernière année. Parce que, en général, j'ai l'impression que, enfin, mon expérience de journaliste fait que c'est des petites bribes par-ci, par-là, oui, et ensuite, après, pour raconter l'histoire, on recolle et on utilise ces petites bribes comme du collage pour essayer de faire des choses. Et j'ai l'impression que dans le café Jadis, c'est un peu ça, oui, que vous avez essayé de reconcentrer, et en même temps reconcentrer finalement le rapport de force entre le pouvoir médiatique et le pouvoir exécutif.
Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, c'est... la rencontre de Étienne Dardel, donc ce lanceur d'alerte, ce journaliste qui est totalement découragé par ce qui est devenu ce métier, etc. Et ce flic, comme on en fait dans les bons plateaux de télévision type BFM, CNews, LCI, donc le syndicaliste de police, s'il n'est pas d'extrême droite, il est de droite extrême. Enfin, c'est à peu près ça, quoi. Là, pour le coup, donc lui, il s'appelle Serge Andras. C'est pas un syndicaliste que j'ai en tête, c'est en effet plusieurs syndicalistes. Et donc, ça, c'est l'avantage de la fiction, c'est qu'en fait, elle vous permet plus encore que le journalisme, elle vous permet de faire de plusieurs protagonistes, un personnage composite, de synthèse. Et donc là, vous avez raison, c'est-à-dire que ce moment-là, c'est un moment de rivalité, enfin, ils se rencontrent plusieurs fois, mais c'est effectivement le moment de la confrontation, la plus importante entre deux idéaux, quoi. Voilà. L'un qui est plus porté sur la liberté d'informer et sur la connaissance et sur le débat, et l'autre qui est un partisan de l'ordre, voilà, et que l'ordre doit être maintenu coûte que coûte, et l'ordre c'est le président, l'ordre c'est l'État, quel que soit l'État. C'est évidemment là la pierre d'achoppement, quoi.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Tarnac. Je vais citer votre livre « Dernière sommation ». Vous dites « Le pays était devenu violent sous l'œil complice de ses institutions. Il était devenu violent parce que les attentats, parce que les terroristes et parce que l'Union nationale étouffaient la moindre critique. Il était devenu violent parce que l'antiterrorisme était devenu l'alpha et l'oméga de la vie politique. » Du coup, j'ai envie de vous demander, les violences policières, elles existaient avant les lois antiterroristes? En quoi l'avènement de la question antiterroriste a permis d'instaurer une domination policière?
Alors, oui, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que on ne découvre pas les violences policières. Enfin, je veux dire qu'elles ne sont pas nouvelles. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que elles sont filmées, photographiées, documentées. Qu'il n'y a pas besoin de passer forcément par des sas. Type les journaux, des choses comme ça, pour que ça arrive sur la place publique. Elles sont là. Elles sont même là parfois en direct. Enfin, je veux dire, c'est un bouleversement absolument incroyable, mais elles existaient avant. Alors après, la question est de savoir est-ce qu'elles existaient dans ces proportions. J'en suis pas sûr. C'est-à-dire que là, on est, de mon point de vue, ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes, ce qui se passe sur les Gilets jaunes, c'est la plus grande répression depuis 50 ans. Voilà, d'un mouvement social. Parce qu'après, il y a une autre question qui est celle des quartiers populaires, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, qui est une autre forme de maintien de l'ordre, de maintien d'inégalité, enfin de tout ce qu'on veut, qui est là depuis 30 ans. Je veux dire, c'est extrêmement clair. Mais qui n'est pas forcément documenté, qui n'est pas forcément étayé, pour plein de raisons. Je veux dire qu'une manifestation, on a une unité de temps, de lieu et d'action. Des gens filment parce que c'est un moment festif, et puis à un moment donné, pendant qu'ils filment, ils tournent la caméra, et là, ils sont sur les policiers qui sont en train de matraquer, de massacrer quelqu'un, de tirer au LBD, de tirer la grenade Glie F4. Je rappelle, ce sont deux armes cataloguées armes de guerre. Là où un contrôle qui tourne très très mal, et qui se transforme en la mort d'un gamin ou l'éborgnement, il n'y a pas forcément eu, parce que c'est improviste, parce que c'est impromptu, parce que c'est improvisé, il n'y a pas forcément eu une caméra ou deux ou trois ou dix pour filmer ce moment-là. Ça commence à venir. C'est marrant, à ce moment-là, la lumière s'allume dans le studio. Ça commence à venir, c'est-à-dire que alors ça passe peut-être pas par Twitter, mais plutôt par Instagram ou par Snapchat ou des choses comme ça, d'autres réseaux. Mais voilà, il commence à y avoir une documentation des violences policières, y compris outre périph, y compris dans les quartiers populaires. Et peut-être que ça va changer un petit peu la donne. Alors, la question de l'antiterrorisme, elle est extrêmement importante parce que Moi, j'ai le sentiment qu'elle a figé complètement le débat. Et d'ailleurs, on assiste constamment, parfois de bonne foi, des gens qui disent « Mais comment se fait-il que les policiers, en 2015, tout le monde les embrassait ?» Bon, alors, évidemment, Renault est passé par là, quoi. Bon, voilà. La vie, c'est un naufrage. Pardon, excusez-moi. Et pourquoi aujourd'hui les gens ne les embrassent plus? Ben d'abord parce que les actes policiers sont pas tout à fait les mêmes. C'est pas la même chose des OPJ qui vont identifier les corps au Bataclan ou sur les terrasses et qui vont essayer de trouver de remonter la filière qui a amené tout ça avec des CRS, des gendarmes mobiles et des baqueux qui massacrent des manifestants. Enfin, je veux dire, c'est peut-être les mêmes hommes, mais c'est pas le même métier. Enfin, c'est pas la même voilà. Donc c'est la question du policier, de l'état policier, etc. Tout ça pour dire que l'antiterrorisme, par des mesures extrêmement liberticides, est rentré pour partie dans le droit commun, ce qui fait que, de manière un peu invisible, c'est-à-dire que les mesures antiterroristes, Raphaël Kempf, par exemple, l'explique très bien dans son bouquin sur les lois scélérates, c'est-à-dire que toutes ces questions, toutes ces lois exceptionnelles, en fait, à un moment donné, deviennent l'ordinaire. Et donc, on a vu à l'œuvre la ressortie de. On voit actuellement, par exemple, une loi contre les attroupements des bandes qui n'était quasiment pas utilisée, hein, qui avait été écrite dans les années 90 sur l'attroupement. C'était fait contre les bandes en banlieue. C'était à l'époque, c'était le grand truc. C'était assez peu utilisé. En fait, cette loi, très peu utilisée, elle va être utilisée maintenant massivement sur les manifestations. Eh bien, vous avez la même chose dans les lois antiterroristes, qui permettent, par exemple, des contrôles préventifs, qui permettent un rétrécissement des libertés individuelles et collectives, extrêmement fortes. Mais sauf que, comme ça a été voté au nom de l'antiterrorisme, qui donc, à un moment donné, ce que je disais là, ce que vous lisiez, l'alpha et l'oméga, je crois qu'en effet, il n'y a pas eu assez de gens pour tout un tas de raisons, le pays pétrifié, figé dans les attentats, etc. Et il n'y a pas eu assez de réaction, alors qu'en fait, dans des affaires qui sont aujourd'hui, enfin, je veux dire, quand on compare Tarnac au Bataclan, je veux dire, c'est démentiel. Et tout ça, c'est au nom de l'antiterrorisme et du terrorisme. Finalement, sur Tarnac et sur d'autres affaires, il n'y a pas eu tant de gens que ça pour se rendre compte à quel point c'était le loup dans la bergerie. Je parle des mesures antiterroristes, je parle des polices antiterroristes, je parle de tout ça. Prenons un autre exemple. Les policiers cagoulés, qu'on voit de plus en plus dans les manifestations. Au départ, les policiers cagoulés, les seuls qui étaient autorisés, c'était les services d'élite, on va dire, les tireurs d'élite, etc. Ou la SDAT, c'est-à-dire les services antiterroristes. Aujourd'hui, Je veux dire, en manifestation, on voit des baqueux qui ont des cagoules. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Je reviens à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, institution d'une force publique, c'est-à-dire qui est soumise au regard du public. Les policiers qui n'ont pas de matricule, les policiers qui.
Mais du coup, on pourrait les attaquer, puisque la loi, normalement, elle interdit ce genre de choses.
C'est-à-dire que. Il y a effectivement, chaque samedi, pour parler des Gilets jaunes, matière à faire des procédures, à déclencher des procédures, mais qui n'aboutiront jamais. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une zone extrêmement dangereuse et extrêmement périlleuse, où on voit qu'au nom d'un ordre qu'on devrait établir et maintenir, on est dans un piétinement des libertés individuelles et collectives qui est je veux dire, il faut se réveiller quand même là. Je crois qu'il faut se réveiller par rapport à ça.
Et justement, vous avez commencé à répondre sur la question des quartiers populaires, mais vous avez commencé à documenter les violences policières, lapsus, en novembre 2018 avec les Gilets jaunes. Évidemment, les violences policières ne commencent pas et ne s'arrêtent pas avec les Gilets jaunes. Pourquoi à ce moment-là, d'une part, et est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous accuse à un moment d'avoir documenté la violence policière quand elle s'abattait sur les Blancs, en fait ?
Non, là, si vous voulez, moi je suis... Je réponds par le travail que j'ai pu faire en 2007. J'ai écrit un livre qui s'appelle Maintien de l'ordre, qui est justement une comparaison du maintien de l'ordre entre les émeutes de 2005, dont je rappelle que le directeur central des renseignements généraux de l'époque, et ça lui a coûté sa place, appelait ça le soulèvement populaire des quartiers. C'est-à-dire que le rapport des renseignements généraux qui date de 2006, qui parlait des émeutes de 2005, avait bien senti la connotation politique. Hein, soulèvement populaire des quartiers, c'est pas violence urbaine, hein, c'est autre chose. C'est bon, donc c'est intéressant. Donc moi j'avais écrit un bouquin là-dessus sur une comparaison entre les émeutes de 2005 et ce qui s'était passé juste après, le CPE de 2006, et comment les mêmes forces de l'ordre avaient agi en banlieue et à Paris. J'en ai fait un film, etc. J'ai longtemps travaillé sur ces questions-là, notamment à Libération. Et il se trouve que moi, les 8 dernières années, de 2011 à 2018, je vis à l'autre bout du monde. Donc, j'ai pas travaillé sur ces questions-là. Ce que je constate, c'est que je trouve qu'il y a une forme d'efficacité de certains comités. Je pense au comité Adama, au comité pour Wissam et d'autres. Je trouve qu'il y a une façon qui existait déjà dans les années 90 avec le MIB, mouvement d'immigration des banlieues. Mais là, on voit que ça revient, c'est-à-dire que il y a des gens qui portent ces questions-là. Mante-la-Jolie s'est signalé comme le reste. Oui. Et Mante-la-Jolie, pour moi, je peux vous dire, j'y pense tous les jours. C'est-à-dire ces 151 gamins agenouillés, entravés pendant 2-3 heures pour certains, j'y pense tous les jours. Il y aura début décembre un rassemblement, oui, je crois, à Barbès, le 8 décembre, quelque chose comme ça, pour les 1 an, j'y serai, quoi. Après. Chacun a son mode d'action, a son champ de compétences, etc. Mais enfin, pour moi, bien sûr, il y a un continuum. Tout ça est tout à fait acté. J'ai aucun doute là-dessus. Aucun.
Pour plus ou moins rendre à Mohamed ce qui appartient à Mohamed, hein, il y a C'est le feu qui avait fait un travail très très créatif, ou enfin très très innovant, pour partir des banlieues, pour pouvoir proposer même des cahiers de la citoyenneté, etc.
Voilà.
Donc, de 2006 à encore aujourd'hui, puisque je les ai vus il y a une dizaine de jours sur la place de la Nation, pour soutenir
Assez le feu, c'est cette association qui s'est créée à Clichy, dans le sillage de la mort de Ziad Ebouna et des blessures très graves de Muhitine. Il y a Mohamed Meshmash, je crois, voilà. Moi, à l'époque, j'étais plus en contact avec un autre, Samir Mihi, qui est dans mon film, dans le bouquin, etc. Moi, j'ai été très, très, très marqué par Clichy. Hein. J'ai été très marqué par le maire de la ville, qui par ailleurs était un pédopsychiatre et qui parlait des enfants, enfin, qui était un mec. Qui était un socialiste et qui je pense, je parle au passé parce que je crois qu'il est décédé, je crois, et qui a vu son camp l'oublier, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que les émeutes étaient passées, que le barnum médiatique s'était éteint, il n'y avait plus grand monde pour venir soutenir ce maire. Mais effectivement, Assez le feu, vous avez raison, il y avait ces cahiers d'oléances, cette caravane, me semble-t-il. Oui, c'était voilà. Vous avez raison, je pense que à partir de 2005, et c'est peut-être la raison pour laquelle Ziad Ebouna, ça reste ancré vraiment dans les mémoires par rapport à d'autres jeunes adultes ou adolescents qui ont été qui sont morts dans les banlieues, qui sont peut-être un peu moins connus, parce qu'il y a eu peut-être un peu moins de... il n'y a pas eu les émeutes, c'est sûr, mais Assez le feu a fait ce travail-là, par exemple, de mémoire, de garder cette question-là dans l'actualité, quoi.
Je propose qu'on écoute les Clash, hein? Know Your Rights.
C'est une bonne idée.
a public service announcement with guitar. Know your rights. All three of them. Number one, you have the right not to be killed. Murder is a crime. Unless it was done by a police man or an aristocrat. Oh, know your rights. And number two, you have the right.
David Dufresne, vous dites que vous avez commencé à faire des signalements parce que vous avez constaté que les principes du maintien de l'ordre que vous avez connus ont été, vous dites, pulvérisés à un moment. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui a changé, en fait, dans ces principes du maintien de l'ordre ?
Oui, enfin, ça fait partie des raisons, mais... Alors, le maintien de l'ordre, en tout cas tel que on le raconte dans les casernes et sur les plateaux télé et dans les colonnes des journaux, c'est cette idée de... Alors, d'un prétendu maintien de l'ordre à la française, qui, pour partie, a existé et qui, pour partie, est un mythe. En gros, c'est l'idée que, de la part de la police, c'est de montrer sa force pour ne pas s'en servir. C'est donc une psychologie des foules. Donc ça date de 1895. C'est un livre de Gustave Le Bon qui considère que la foule est unique et que il faut la manœuvrer, etc. Ce qui montre à quel point la police française qui est encore là-dedans a pas compris que, et dans les gilets jaunes c'était, alors là c'est flagrant, la foule n'est pas unique. C'est-à-dire que il y a des primo manifestants, il y a des manifestants habitués, il y a des aguerris, il y a des gens qui vont au contact, il y a des gens qui vont plus qu'au contact, d'autres qui Et tout le monde n'est pas forcément là exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est pas un cortège rangé, on va dire. Voilà. C'est pas un cortège rangé, encadré par la CGT, pour prendre un exemple. Donc, premier truc, c'est cette idée de ce maintien de l'ordre, montrer sa force pour ne pas s'en servir, absorber les coups plutôt qu'en donner. Je vous dis pas que c'est ce qui se passait, mais bon. Et en fait, surtout, les deux piliers, c'est la stricte nécessité de l'usage de la force et la proportionnalité. Voilà. Ça, c'est les deux piliers, on va dire, du maintien de l'ordre démocratique, pour employer un. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le strict usage, la stricte nécessité de l'usage de la force, comme la proportionnalité, ça veut dire je reçois un pavé. Je donne un coup de matraque, je reçois autre chose, je sors le LBD, etc. Qu'en fait, cette graduation qui obéit vraiment, enfin, je veux dire, c'est tout un truc, hein, ça s'appelle la doctrine. Il y a toute une graduation et le canon à eau, par exemple, ça arrive, c'est pas la fin, parce que la fin, c'est vraiment l'arme de service, c'est-à-dire le flingue, mais avant, il y a le canon à eau. Quand le canon à eau arrive à 10h du matin, c'est-à-dire qu'on est déjà tout en haut de la graduation, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous avez des milliers de grenades lacrymogènes qui sont balancées, notamment le 1er décembre, il y a quelque chose qui, d'un point de vue policier, ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui a merdé. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout dans l'ordre des choses, puisqu'on parle d'ordre. Et donc, comme tout le monde, j'assiste à ça. Sauf que comme j'ai travailler sur ces questions-là auparavant, j'arrive à mesurer qu'il y a une distorsion entre ce que l'école de Saint-Astier en Dordogne enseigne aux gendarmes mobiles et aux CRS, c'est-à-dire c'est une espèce de vrai faux village où les mecs manœuvrent, s'entraînent, etc., où il y a toute une théorie, toute une doctrine, tout un entraînement, et puis ce qu'on voyait dans les rues, avec le retour des voltigeurs, avec le retour des blindés que la France métropolitaine n'avait quasiment pas vu. Alors après, si, dans les ZAD, mais en tout cas, le blindé sur les Champs-Élysées, c'est un défilé du 14 juillet qui se passe le 8 décembre. Enfin, ça n'a absolument aucun sens, hormis de théâtraliser, de sidérer les imaginaires, de saturer l'espace médiatique. Voilà, parce qu'en gros, vous envoyez ces blindés de la gendarmerie qui sont un peu vieux, qui ont servi au Kosovo, voilà. Et évidemment, l'image que vous donnez, c'est le pays est en guerre, quoi. Enfin, c'est effarant, quoi. C'est effarant que ces marchés. Voilà. Et donc, pour faire vite, les prétendus grands principes du maintien de l'ordre sont pulvérisés sous nos yeux. Voilà. Donc on voit notamment et ça, deux choses. D'un côté, une très très forte judiciarisation des manifestations, avec une criminalisation très forte des manifestants, c'est-à-dire que ce ne sont plus des manifestants, ce sont des criminels. Donc Macron va parler de factieux, de séditieux, des journalistes vont parler de vermine, enfin, je veux dire, ça va quand même très très loin dans le discrédit, dans la dépolitisation, dans le déni du manifestant à être manifestant. Et puis, la deuxième idée, c'est une utilisation massive de policiers. C'est-à-dire qu'on a eu, à un moment donné, jusqu'à 50% des forces de police utilisées le samedi. Avec le concours de policiers qui n'ont rien à faire avec ça. La BRI, la BRB, les BAC, etc., etc. Et donc, des policiers ni formés, ni entraînés, ni équipés. Et donc, tout ça, et là-dessus, vous saupoudrez ça de déclarations martiales, ministérielles, voire présidentielles. Et là, vous avez sous vos yeux quelque chose qui passe du maintien de l'ordre à la répression. C'est très clair, c'est du maintien de l'ordre à la répression.
Alors, vous parlez de sidération avec ces camions et toute cette fumée, tout ce gaz qui crée des visuels. Oui. On a l'impression que c'est fait un peu exprès pour que ça crée une image de terreur.
Ah oui, oui, c'est tout à fait.
Est-ce qu'il y a ce sentiment-là, qu'il y a une forme d'instrumentalisation? Parce que ils savent à l'avance, que ce soit un préfet ou même le commandant sur place, que va y avoir des gens avec leur téléphone qui vont filmer, qui vont créer. Est-ce que vous pensez que tout ça est une forme de d'instrumentalisation justement de la confrontation pour créer un sentiment de terreur et puis peut-être pour analyser les foules pour éviter qu'ils pensent à d'autres problèmes.
Alors, je crois quand même qu'il ne faut pas sous-estimer l'improvisation au sein de la police. C'est-à-dire que la police, elle s'adapte, souvent avec un petit temps de retard. Enfin, je veux dire, c'est depuis la bande à Bono, c'est depuis le gang des tractions avant. Je veux dire que la police a toujours un tout petit temps de retard. Alors, ce petit temps de retard tend quand même à se réduire par la technologie. Hein, la technologie fait que la police met moins de temps à s'adapter à l'adversaire, à l'ennemi ou à la foule qu'elle veut contenir, etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'aspect improvisation. Mais dans le même temps, le maintien de l'ordre, c'est une affaire de psychologie. C'est-à-dire que c'est la première leçon d'un CRS. C'est-à-dire que le CRS, si on lui dit de venir avec son calot sans matraque et sans bouclier, il sait très bien ce qu'il dégage comme image. C'est à la limite, c'est l'image du CRS de notre enfance sur les plages. Enfin, je veux dire, c'était ça, quoi. Le même homme en Robocop. Casque fermé, visière baissée, matraque, bouclier armé, pas au sol, etc. Il envoie un autre signal qui est celui de là je vais attaquer, là je vais me défendre. Et bon, donc il y a une forme de psychologie, et je crois vraiment que l'histoire de ces blindés sur les Champs-Élysées, alors là on était dans le théâtre, là on était vraiment dans le théâtre. Pour BFM, pour TF1, pour effectivement figer, faire en sorte, tout le monde a entendu les familles qui appelaient en disant mais ma fille, mais mon fils ne va pas manifester samedi. J'ai vu à la télé. Bon voilà. Et donc là on est dans quelque chose. Mais cela dit, ce que j'ai appris, ce que je raconte dans le roman, c'est que, et j'y croyais pas sincèrement au début. Mais j'ai de bonnes raisons de croire, par quelques sources vraiment bien renseignées, qu'à un moment donné, l'appareil d'État a eu peur. Alors, sa peur continue de m'étonner, c'est-à-dire que de croire que éventuellement la République allait vaciller, ça me sidère un peu qu'ils aient pu penser ça. En tout cas, il y a eu frousse. Je veux dire que ce que je raconte sur les plans des égouts qui sont sortis, enfin les plans d'évacuation qui sont à un moment donné de l'Élysée qui sont sortis, ça a eu lieu. Bon, voilà, il y a eu cette peur à un moment donné parce que depuis la commune, grosso modo, il n'y avait pas eu le feu dans les beaux quartiers à ce point-là. Si on enlève 34, qui est tout à fait autre avec les ligues factieuses, etc., vraiment, il faut remonter à la commune. Et donc, là, il y a une forme de désarroi de l'État, mais qui s'est transformé à un moment donné en peur. Et une des réactions, ça a été de montrer des muscles, mais alors de manière complètement, complètement folle. Et ensuite, de le faire payer. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y a un lien entre ça et ensuite les 24 éborgnés, les 5 mains arrachées, les 2 morts, Zineb Redouane et Steve, que je crois qu'on doit mettre au compte de ce maintien de l'ordre. Alors là, pour le coup, le terme technique, c'est festif, parce que c'est lors d'une fête. Mais sauf qu'en fait, je crois que ce qui se passe le 21 juin, c'est l'aboutissement de cette police en roue libre, avec une forme d'autonomie assez importante, une chaîne de commandement défaillante, et des gars à qui on dit pas forcément allez-y, mais à qui on ne dit pas n'y allez pas, quoi.
J'étais militant à Nuit Debout et j'ai vu en fait ces confrontations et cette théâtralisation de la confrontation s'organiser place de la République. Autour du week-end du 28 avril, par exemple, il y a eu un lâchage comme ça d'un certain nombre de gendarmes ou de CRS ou de baqueux pour aller taper sur les gens devant des caméras du Parisien et etc. Et donc tout ça, ce qui me fait dire que toute cette organisation-là avait déjà été plus ou moins testée, donc en avril sur la place de la République, en juin aux côtés de l'hôpital Necker, où clairement il y avait une organisation presque géophysique pour bloquer les manifestants et le cortège de tête sur l'hôpital Necker. Donc il y avait déjà un apprentissage qui avait été fait en 2016. Que plus ou moins on peut revoir finalement. Un peu.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire par improvisation, il y a aussi le côté essai-erreur. Donc évidemment que, contrairement justement à ce qu'aujourd'hui on veut nous faire croire, Christophe Castaner et Laurent Nunez veulent nous faire croire qu'ils ont changé la doctrine du maintien de l'ordre au cours de l'année 2019. Mais c'est complètement grotesque. Je veux dire, vous ne changez pas un ministère où il y a 200 000 personnes, tout simplement parce qu'à un endroit, Place Beauvau, on a... Bon. Donc, effectivement, ce qu'on voit à l'œuvre, ce qu'on a vu à l'œuvre, ce qui s'est joué sur les Gilets jaunes, c'est en germe avant. Nuit debout, la loi travail, COP21, les ZAD. C'est évident que tout ça, et ce qu'on disait tout à l'heure, Les quartiers populaires, tout ça c'est un continuum. Voilà, et là il se trouve que ça franchit un autre stade, c'est-à-dire qu'en 6 mois, si je prends par exemple les travaux de Désarmonlé, le collectif Désarmonlé avait comptabilisé à peu près de mémoire 25 blessés graves en 20 ans sur des armes type flashball ou LBD. Eh bien, en 6 mois, il va y avoir 25 personnes blessées de la même manière. C'est-à-dire qu'il va se passer en 6 mois ce qui s'est passé en 20 ans. Donc là, il y a quand même quelque chose qui interroge. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une accélération. On voit bien qu'il y a une accélération. Et en plus, une impunité quasiment garantie, quoi. Je veux dire qu'on a appris cet après-midi que Lilian, ce gamin de 15 ans, qui a pris un LBD à Strasbourg dans la mâchoire, dans la joue droite, qui par ailleurs n'était pas manifestant, qui sortait d'un magasin de sport, on a appris cet après-midi que l'affaire était classée sans suite parce que le parquet a considéré que comme il ne pouvait pas identifier le tireur, il n'y avait pas de suite possible. C'est une honte absolue. C'est une honte absolue, là. C'est, pour l'état de droit, c'est une honte absolue. Ce gamin, dont on comprend en lisant, donc c'est sur rue 89 Strasbourg, dont on comprend qu'il a été déscolarisé, puis qu'ensuite, il est plus avec sa mère, il est avec son père à l'autre bout de la France. Enfin, voilà, on comprend la, voilà, sa vie est démolie, quoi. Et on nous dit classement sans suite. Non, mais c'est pas sérieux. Pardon.
Justement, une question. Par rapport à ce changement-là, c'est pas le seul changement. En 86, Malik Koussekine, quand il est battu à mort par 3 voltigeurs, d'ailleurs vous faites dire à votre personnage Étienne Dardel, j'étais dans le quartier, mes signalements ils viennent de là. Le lendemain, il y a 500 000 de personnes qui défilent à Paris. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les violences policières, et notamment cette honte-là dont vous parlez, elles ne deviennent plus un scandale national?
Alors... J'ai quand même l'impression que les violences policières aujourd'hui sont devenues un enjeu. Pas primordial, pas prioritaire. Je veux dire que on nous divertit, on nous amuse avec le voile. Ou sinon, les questions sociales, économiques. Bon. Mais les questions de santé, mais les questions de violences policières qui avaient complètement disparu des radars, sont revenus, notamment par ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Bon. Mais vous avez raison. Qui est allé manifester pour Zineb Redouane? Qui est allé manifester à part à Nantes pour Steve? Alors, il y a eu quand même tout cet été des graffitis partout en France, où est Steve, justice pour Steve, etc. On sent quand même que dans l'imaginaire Steve, c'est quelque chose. Mais vous avez raison, il n'y a pas eu, comme après Malik Houssikine. Bon, alors, il y a des raisons. D'abord, parce que je pense qu'en 86, on est au tout début des coups de butoir, notamment par la gauche parlementaire, sur les libertés individuelles et les libertés collectives, puisque la loi sur la sûreté date de 84. Disons que la question de la défense des libertés est encore centrale. Elle l'est beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. Et là, c'est tout un jeu politique, me semble-t-il, pour aller vite, c'est-à-dire entre ceux qui ont considéré que la question prétendue sécuritaire était primordiale, avec tout le jeu Front National derrière et compagnie. Et donc, aujourd'hui, il est devenu suspect de défendre les droits de l'homme. Et je veux dire, ça va jusqu'à Macron, qui, dans Valeurs Actuelles, utilise l'expression « droit de l'hommiste », qui est né à l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est devenu suspect de défendre finalement quelques valeurs de 1789 qui sont, qui sont quand même pas mal. Enfin, je veux dire, il y a de quoi prendre là-dedans quand même. Bon, et ben c'est devenu suspect. Voilà. D'un côté, parce qu'il y a un chômage de masse, parce qu'il y a des questions sociales, économiques, professionnelles qui s'abattent sur une grande partie de la population, et un sentiment d'impuissance. Et donc finalement, ces questions-là apparaissent annexes, secondaires, etc. Alors qu'en fait, à mon avis, elles sont premières. Mais je vous dirais que quand on voit l'écho que peuvent avoir il y a deux jours, les chirurgiens français qui ont fait leur étude dans le Canard anglais, qui démontre
The Lancet, qui démontre
qu'il y a eu 40 blessures graves à l'œil, en partie à cause du LBD, etc. Quand on voit l'écho par exemple, des questions qui traversent Extinction Rébellion, violence, pas violence, est-ce qu'il faut effacer ou non les graffitis en hommage aux violences policières, quand on voit l'écho de comités comme le comité Adama, quand on voit qu'aujourd'hui BFM ne met plus de guillemets à violence policière. C'est pas forcément de la faute du stagiaire de BFM, je veux dire que c'est aussi que peut-être qu'inconsciemment cette question-là elle est rentrée. Et quand on voit encore avant-hier la porte-parole de l'Élysée, du gouvernement plutôt, qui sur France Culture essaie récuse le terme de violence policière, on comprend bien pourquoi elle le récuse, parce qu'elle voit bien que c'est passé, il y a débat. Voilà, il y a débat.
Moi, j'aimerais conclure par une citation du livre Dernière Sommation. Vous dites, vous, policier, enfin vous, le personnage principal, Étienne Dardel, dit « Vous, policier transformé en bras armé d'un pouvoir sans puissance, un État sans légitimité, un État qui ne défend plus que lui-même puisqu'il a tout bradé. » Et le policier vous répond « Gauchiste, va.
Hein ?»
Du coup, est-ce que ça résume ça, cette situation, l'État sans légitimité, l'État qui ne défend plus que lui-même.
On revient à la question de Max Weber avec laquelle on a démarré l'émission, c'est-à-dire que l'État vend aujourd'hui la Française des Jeux. Enfin, je veux dire, tout est bradé. Donc, on se dit, mais au fond, l'ordre que les forces de l'ordre maintiennent, c'est quoi exactement? C'est un président élu de manière, en fait, minoritaire. Et donc, la légitimité du président se pose. Je parle pour ceux qui, déjà, ont accepté le jeu du scrutin présidentiel, etc. Mais même pour eux, cette question se pose aujourd'hui. Donc, alors, est-ce que c'est gauchiste? Est-ce que c'est anarchiste? Est-ce que c'est de penser ça? Le policier, lui, considère, il met dans gauchiste, il y a tout. Ah, là, c'est le paquet cadeau, quoi.
C'est pratique, c'est le front commun. Le
téléphone et Internet, quoi, il y a tout.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Toute petite annonce de Philippe, notre technicien.
Oui, je vais faire une petite annonce concernant actuellement au théâtre le passage vers les étoiles, impasse Cité Jolie dans le 11e, un théâtre qui joue actuellement la thérapie de la connerie, joué par deux jeunes comédiens, Thomas Salzman et Leonardo Rivillo. Alors là, c'est un bon moment, je vous invite tous à passer ce moment en soirée à ce théâtre. Merci.
Voilà, ça permettra peut-être de détendre les égomatiques après toute cette ambiance lourde de conneries de l'État. Je vous remercie énormément. Nous vous remercions énormément.
Merci David Dufresne.
Je vous en prie. À bientôt.
À bientôt.
Merci.
Pour vivre en société, il faut qu'on apprenne à se tolérer, qu'on retrouve un peu d'humanité. Quel que soit ton pays, ta couleur, on a partout sur terre droit au bonheur. Et quel que soit